BPM Vernon 99.3. 99.3.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. C'est l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission cette semaine avec l'association Les Enfants de Tamar et Claire-Aurélie Verraquin. Bonjour Claire-Aurélie, déjà comment ça va?
Bonjour, bah ça va très bien, merci pour cette invitation et votre soutien vraiment très important pour nous.
On essaye.
Merci.
On fait de notre mieux en tout cas. Claire Aurélie, avant de parler de l'association, évidemment, on va parler un petit peu de toi. Représente-toi, qui es-tu pour nos auditeurs?
Donc moi je suis Claire Aurélie Verraquin, j'ai donc été victime de violences sexuelles intrafamiliales dans mon enfance, de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi à l'âge de 17 ans, 18 ans. Voilà, et donc au cours de tout un chemin thérapeutique, j'ai écrit quelques livres, deux témoignages, et à l'issue de ces témoignages, j'ai décidé de créer l'association Les Enfants de Tamar, puisque en 2018, on va fêter nos 6 ans. Nous n'avions pas d'association qui traitait en particulier du sujet des violences sexuelles dans l'enfance. Et pour moi, c'était vraiment important de ne pas le noyer dans d'autres problématiques tout autant importantes. Mais pour moi, je voulais vraiment mettre une lumière sur ce fléau qui malheureusement, le reste, on le voit bien avec l'actualité.
Qui est toujours assez invisibilisé, malheureusement, selon... malgré tout le travail réalisé notamment par l'association, mais c'est vraiment le combat principal, c'est de montrer que ce sujet-là existe, puisque généralement, c'est ce qu'on parlait avant, mais on n'a pas envie d'y croire, on n'a pas envie de savoir que ça existe, ça, en fait, quand on n'a pas été touché.
Tout à fait, mais quand on commence à creuser, moi, c'est quand je discute avec les gens, souvent, je leur dis, mais osez parler de votre expérience, quand souvent j'accompagne des victimes, et vous verrez qu'autour de vous, il y en a beaucoup. On parle de 3 enfants par classe, et ça, c'est juste dans l'inceste, et ça, c'est juste ceux qui ont déposé plainte. Mais ces 10% de la population, finalement, c'est pas rien. Et dans ces 10% de la population, on compte pas tous ceux qui n'ont jamais parlé, ou qui sont amnésiques, ou qui sont dans le déni. Donc vraiment, c'est un vrai fléau, et malgré tout le travail qui a été fait par la CIAS, par la CIVIS, par de nombreuses associations qui travaillent autour de cette thématique, on voit bien quand même qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour lever le déni sociétal. C'est juste horrible d'imaginer qu'au sein de sa famille, un ami ou un enseignant ou un éducateur sportif puisse toucher à un enfant innocent. Et c'est tellement horrible qu'on ferme les yeux et on fait les autruches.
Et puis ça peut concerner aussi directement des gens de notre famille, en fait, directement. Je ne sais pas, imaginons, ma sœur a eu des choses et en fait, je ne suis même pas au courant. Je ne le sais pas parce que les langues ont du mal à se délier, c'est ça?
Oui, tout à fait, mais on a souvent le cas, hein. Moi j'accompagne plusieurs femmes et hommes qui n'ont jamais parlé de leur traumatisme et qu'à un moment donné ça explose et donc du coup les fratries sont informées ou pas, ça dépend. Donc en effet, il peut y avoir au sein d'une même famille un secret qui ronge de l'intérieur sans savoir par qui nous sommes vraiment rongés.
Et j'ai l'impression que les langues se délient de plus en plus, en tout cas, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est plutôt sur la bonne voie, en bonne direction.
Oui, enfin, c'est vraiment à pas de souris, hein, parce que moi, je trouve que ça se délie, mais parce que je suis que dans cet environnement-là, mais je vois bien que quand on veut aller faire des interventions dans l'environnement extérieur, ou quand on commence à aborder le sujet avec des gens qu'on ne connaît pas et qui sont loin ou pas loin, d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas, on voit bien comme un recul, comme j'ai pas envie d'en parler. Donc, je ne sais pas si les langues se délient vraiment, mais en tout cas, nous, on a de plus en plus de personnes qui viennent à nous pour nous solliciter, pour qu'on puisse les accompagner, ça c'est sûr.
Parce que du coup, le rôle d'accompagnement de l'association aujourd'hui, c'est quoi un petit peu son rôle?
Alors nous, dans l'accompagnement, je vais faire beaucoup d'écoute téléphonique. Hein. Souvent, je suis la première personne des fois à qui on parle. Et je prends beaucoup de temps lors de ces entretiens. C'est rare qu'un entretien dure moins d'une heure. Donc il faut savoir que cette année, le nombre d'appels a doublé. Donc voilà. Sur l'accompagnement, on a les groupes de parole des victimes. et le groupe de parole des aidants. Le groupe de parole des victimes, donc il naît, il est co-animé avec une psychologue, Émilie Duwardins. Et donc, du coup, c'est un groupe fermé qui va durer l'année. Et le groupe des aidants, alors là aussi, c'est un groupe fermé. Nous, on a fait ce choix de ne pas faire des groupes de parole en one shot. Vraiment, on fait un accompagnement et donc on ferme les groupes à un moment donné. Et donc là, les aidants, ce sont les personnes qui peuvent accompagner un enfant ou un proche qui n'a pas été victime. Donc ça, c'est important pour nous que les aidants n'aient pas été victimes. Ou alors qu'ils aient fait un travail vraiment approfondi, mais en tout cas que ça ne soit pas leur première approche juste d'aider alors qu'ils n'ont pas fait le travail en amont sur leur propre histoire. Ça peut être des professionnels, ça peut être des enseignants, des éducateurs, même vous aussi, si vous le souhaitez. Si vous avez un ami qui
des proches qui veulent aider, qui veulent accompagner.
Voilà, tout à fait. Mieux comprendre le système pour, en tout cas, mieux accompagner, mieux pouvoir écouter, mieux pouvoir comprendre des fois des fonctionnements particuliers. Ça, c'est important. Voilà, le groupe des aidants, c'est plutôt ça.
Parce que du coup, ce groupe des aidants, il serait drivé un petit peu par toi, par d'autres personnes qui auraient connu aussi déjà un peu ce...
Alors... C'est des professionnels ou des gens formés, donc c'est deux membres. Alors c'est pas moi parce que je peux pas tout faire, mais ce sont deux professionnels, une psychothérapeute, art thérapeute et une ancienne assistante sociale, chef d'établissement, psy-EN. Donc elle a un bagage assez fourni pour pouvoir bien écouter, parce que c'est vraiment ça, l'écoute. Et puis après répondre aux questions s'il y a besoin. Et puis après on peut se donner un délai pour s'il y a des questions pointues, on peut se donner des délais pour répondre aux aidants. Il n'y a pas de souci. Et puis sur ce groupe des aidants, on encourage de commencer par faire la formation que nous on a appelée la formation d'idées bases, qui sur une journée et qui permet de poser un peu la connaissance un peu psychologique et un peu l'environnement judiciaire de ces affaires là.
Voilà. Parle-nous justement d'une manière générale de ces formations. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe du coup concrètement?
Alors, il y a plusieurs formations. Cette année, on a fait plusieurs formations. On a la formation des bases. Donc, elle est faite soit lorsqu'on a un groupe des aidants qui s'ouvre et puis du coup, après, on le propose aussi à un plus large public. Ces formations, elles vont être aussi proposées dans le cadre... du protocole d'accompagnement des associations sportives et des écoles, puisque pour nous, c'est vraiment le socle primordial. Et d'ailleurs, à l'issue de cette formation, on remet un livret, un peu qu'on a appelé le livret des aidants, pour garder une trace un peu de tout ce qu'on voit dans cette journée-là. Et donc, du coup, les autres formations, on va réitérer, puisqu'elles ont été complètes très, très rapidement. Ça va être les formations sur les violences sexuelles et transgénérationnelles, l'accompagnement de l'enfant victime. Mais on a une nouveauté cette année, puisque nous avons la chance d'accueillir pour deux jours Éric Beauregard, qui est un criminologue québécois, qui est notre invité du colloque. Et donc, du coup, en amont du colloque, il nous propose une formation qui s'appelle Victimologie développementale et agression sexuelle dans l'enfance. Donc vraiment, ça va être une 3 heures de formation de compréhension de la victimologie des agresseurs d'enfants. Et on a choisi, du coup, pour cette formation, de la proposer à la fois en présentiel et en distanciel. Par contre, les places sont limitées à 20 dans chacune des propositions.
Victimologie des agresseurs d'enfants, c'est on voit du point de vue de l'agresseur, du coup?
Oui, du coup, en fait, on a fait ce choix aussi pour pouvoir un petit peu mieux comprendre, parce que cette année, notre colloque, il est basé sur les auteurs mineurs d'agressions sexuelles, décrypter les racines pour mieux protéger. Alors, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal pour une association d'aide aux victimes de s'intéresser aux auteurs, mais là, c'est aux auteurs mineurs. Mmh. Et en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 35% des auteurs en France qui sont mineurs. Donc c'est quand même un gros fléau. Et malheureusement, dans la plupart de ces cas, ces auteurs sont eux-mêmes victimes. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'en parler et d'essayer de comprendre un petit peu ce passage entre victime-auteur et notamment dans l'enfance et dans l'adolescence, en fait, pour pouvoir mieux les comprendre, mieux les décrypter tout de suite pour éviter... le passage à l'acte, ou en tout cas la répétition du passage à l'acte.
Ouais, ça peut être une vue comme une sorte de vengeance par rapport à ce que la personne a pu vivre avant, j'imagine.
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la vengeance, mais en tout cas, il y a dans notre cerveau des choses qui se mettent en place qui font que on va être dissocié ou on va être, on va essayer de rechercher une espèce de d'adrénaline ou de d'hormone qui va passer dans le passage à l'acte. Voilà, je suis pas sûre que c'est consciemment pour se venger. Parce que finalement, c'est pas personne agresseuse. Mais en tout cas, on se fait aussi du mal. Parce qu'il faut savoir qu'un auteur, en réitérant les viols qu'il a subis, réitère son propre viol. Donc en fait, il se fait du mal avant aussi, pour lui. Bah, pas avant tout, parce que c'est la victime qui fait du mal quand même.
Bien sûr.
Mais il se fait aussi du mal à lui. Et c'est une manière aussi de se détruire.
Du coup, ça sera donc autour du colloque qu'on va retrouver le 13 novembre, le colloque annuel. Du coup, là, cette année, tu as déjà un peu parlé des invités. Parle-nous-en un petit peu plus, justement, Éric Beauregard, Bruno Clavier, notamment.
Alors, Éric Beauregard nous vient du Québec. Hein. C'est un criminologue de renom. Il est chercheur, expert dans le domaine des comportements criminels et en particulier des agresseurs sexuels. Donc, c'est vraiment une opportunité extraordinaire de pouvoir l'accueillir sur cette journée de colloque et cette formation en amont. Il a fait vraiment des recherches sur le profil, la typologie des agresseurs sexuels. Il est vraiment très très pointu sur les auteurs de violences sexuelles. Bon, Bruno Clavier, il est déjà venu. C'est vraiment quelqu'un d'important pour nous puisque il met en lumière toute la partie transgénérationnelle. Et là, du coup, il va aborder justement cette partie de schéma de répétition dans la famille. Et donc, souvent, il y a des victimes et des auteurs dans la famille. Et donc, on est sur... Il y en a qui vont être des victimes et il y en a d'autres qui vont prendre le chemin des auteurs. Et donc, il va nous parler de comment on peut essayer d'endiguer tout ça. Nous avons aussi, nous allons aussi accueillir Émilie Dubois-Ardins. Donc c'est la psychologue criminologue qui travaille beaucoup avec l'association. Elle est aussi experte auprès du tribunal. Et donc là, elle va nous éclairer sur l'apport de l'expertise psychologique du point de vue des victimes et des auteurs. Donc c'est le rôle de l'expertise judiciaire dans ce cadre-là et dans la procédure pénale. Donc ça, c'est intéressant. Nous aurons sûrement une petite vidéo d'une magistrate parce que malheureusement, elle ne pourra pas venir nous voir. Mais pour nous, c'était important d'avoir aussi le point de vue d'un juge pour enfants.
Ouais.
Donc, nous espérons au moins avoir cette petite vidéo de Delphine Blot, qui est vice-présidente du syndicat de la magistrature. Et elle a été juge pour enfants. Elle est... elle va faire quelque chose, j'espère, de super intéressant.
C'est-à-dire en tant que juge, elle a vécu cette situation.
Tout à fait.
Et affronter. C'est pas elle qui affronte, mais vivre en fait directement auprès de l'enfant agressé et de l'agresseur.
Voilà, c'est ça. C'est quelle est la position de la justice par rapport à ces auteurs mineurs? Franchement, avant 13 ans, il n'y a pas de procédure pénale, hein, c'est compliqué. Et même s'il y a des procédures pénales, en tout cas, les enfants ne vont pas en prison quand ils sont mineurs. Et donc, du coup, quelle est la position de la justice? Comment faire comprendre à l'auteur la gravité de ses actes? Comment aussi les victimes peuvent être réparées, même si l'auteur ne va pas avoir une peine aussi lourde que s'il était majeur? Et justement, pour bien approfondir ce point de vue-là, nous avons invité le CRIAV et tout particulièrement l'unité de soins spécialisés pour adolescents, l'UNSA, qui est l'unité qui prend en charge les auteurs mineurs dans notre département. Et donc là, ils vont venir nous expliquer le protocole, l'accompagnement, tout ce qui est mis en place pour éviter la récidive, parce que clairement, la prise en charge des mineurs à partir de 13 ans, elle n'avait vraiment pour vocation que d'éviter la récidive et le passage à l'acte plus tard à l'âge adulte.
Une sorte de soin, quoi. On essaye de les soigner directement.
Tout à fait. Donc là, on aura une infirmière et une ingénieure en formation qui est là pour nous expliquer un peu comment tout le protocole est mis en place. Mais ça va être très, très passionnant et vraiment, encore une fois, des interlocuteurs qui vont être experts dans leur domaine et qui vont nous éclairer sur un sujet qui est difficile à admettre aussi. Hein, les auteurs mineurs, c'est quand même très, très difficile d'accepter qu'il y en ait autant. Ouais. 35%, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'enfants.
Sachant qu'il y a beaucoup d'agressions de base, donc voilà. 35%, c'est...
C'est énorme.
C'est énorme. Donc, ça sera le 13 novembre.
Tout à fait.
Du côté de Saint-Marcel, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Merci à la SNA et pour nous mettre à disposition l'espace Guy Gambu,
tout à fait.
Qui pourra vraiment accueillir dans de très bonnes conditions. Et comme d'habitude, nous aurons aussi une librairie. On aura toute la documentation. Enfin, voilà, on vous prépare quelque chose, comme d'habitude, de grande qualité. Voilà.
Et de toute façon, toutes les informations sur ces jours-là sont à retrouver, notamment sur les réseaux sociaux, sur le site internet de l'asso.
Tout à fait. Donc, tout est sur le site internet de l'association, que ce soit les formations ou que ce soit le colloque, avec des liens directs pour vous inscrire. Et puis, il faut peut-être informer les auditeurs que nous avons aussi une chaîne YouTube. Donc, YouTube, si vous tapez YouTube Les Enfants de Tamar, vous pouvez accéder gratuitement à toutes les conférences qu'on a déjà pu traiter sur le sujet. Et donc, du coup, ça peut aussi donner de l'éclairage. C'est vraiment pour nous un outil pédagogique fondamental. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'emparent de ces interventions de grande qualité qu'on mène depuis 3 ans.
Ça peut permettre de faire une sorte de suivi aussi, du coup. C'est que même si on a raté l'événement, on peut quand même retrouver tout ça et accéder à ces informations.
Oui, tout à fait.
Passons à un autre sujet, autre chose que l'association réalise. Ça fait 3 ans, du coup, que vous avez eu un agrément éducation jeunesse populaire. Explique-nous un petit peu justement, c'est quoi et qu'est-ce qui en découle.
On a 2 agréments, jeunesse éducation populaire et l'agrément éducation nationale. Donc, ces 2 agréments nous donnent la possibilité d'intervenir. Donc, pour le jeunesse populaire, dans tout le domaine culturel, sportif, etc. Tout, là où il y a des enfants dans l'extrascolaire, on va dire, et le volet éducation nationale pour la Normandie. Donc nous, on a un agrément pour l'instant que pour la Normandie, mais déjà, si on intervient dans toute la Normandie, c'est très très grand. Et donc, du coup, cette année, nous avons déposé un dossier à l'Agence nationale du sport qui soutient notre démarche. Et donc, va permettre à plusieurs associations de bénéficier du protocole global qu'on va proposer. Donc, on a une subvention de l'Agence nationale du sport et du département. Voilà pour cette action. Et pour nous, c'est une vraie opportunité. Et vraiment, c'est depuis le début qu'on a créé cette association, pour nous, c'était d'aller intervenir auprès des enfants et auprès des éducateurs qui encadrent les enfants. Donc, au même titre que celui de l'éducation nationale, on a présenté un package qui regroupe 2 à 3 interventions pour les élèves. En amont de ces interventions, nous proposons une action de formation avec la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les bases.
Ouais.
Et alors, soit elle sera mutualisée avec d'autres assos ou d'autres établissements. On verra en fonction du nombre de personnes, puisque la formation, elle peut contenir que 20 personnes. Et bien sûr, pour vraiment sensibiliser l'ensemble du monde, nous proposons une conférence ou un ciné-débat auprès des parents.
D'accord.
Donc voilà. Et donc cette année, nous avons la chance de pouvoir intervenir dans les associations et dans les établissements. Et on a déjà aujourd'hui le lycée professionnel Georges Dumézil, qui a signé une convention avec notre association et donc va donner la possibilité à tous les élèves de seconde d'être sensibilisés, et l'équipe éducative et les parents du lycée. On a le collège Ariane. On pense toujours maintenir le travail avec le collège César Lemaître, puisque eux, ça fait déjà 3 ans qu'ils nous soutiennent et qui nous font intervenir, notamment autour de la journée européenne. Donc là, c'est en train de se caler pour pouvoir organiser au mieux ces actions de sensibilisation, de formation et d'information, qui est vraiment le cœur de notre métier.
Et du côté des associations, des clubs, tout club, toute association qui serait intéressée peut vous contacter.
Oui, alors là, l'Agence nationale du sport, c'est principalement en direction du sport, mais bien sûr que s'il y a une autre association qui... Là où il y a des enfants, malheureusement, il y a des victimes et des pédocriminels. Donc, S'il y a une association qui souhaite bénéficier du programme, bien sûr qu'on validera ce projet. Voilà, il n'y a pas de souci.
Et bien justement, pour conclure, comment est-ce qu'on vous contacte? Comment est-ce qu'on vous retrouve du coup?
Alors, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Insta, X, Facebook, sur les enfants de Tamar, c'est assez facile. Notre site internet qui est tout régulièrement mis à jour. Notre adresse donc internet, c'est www.lesenfantsdetamar.fr. Notre adresse mail, c'est facile, c'est lesenfantsdetamar@gmail.com. Donc voilà, et puis si vous allez sur notre site internet, vous avez aussi les coordonnées téléphoniques pour me joindre personnellement si nécessaire.
Et le LinkedIn pour les professionnels.
Oui, voilà, nous avons un grand réseau de professionnels et on est ravis de pouvoir s'appuyer sur eux qui relaient largement partout en France nos actions diverses et variées, en effet.
Eh bien, merci beaucoup Claire Aurélie.
Merci, au revoir, bonne journée.
Merci donc de nous avoir parlé des enfants de Tamar. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM Vernon 99.3.